Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
L'actualité est faite de jour J et on vous les raconte chaque soir sur RTL, Stars, Strass, Statut et Cinéma. Ladies and gentlemen, bienvenue aux Oscars. Merci d'être fidèle à jour J que vous écoutez sur RTL ou en podcast. C'est dimanche que le gratin du cinéma mondial se retrouvera pour la plus grande cérémonie du 7e art au Dolby Theater d'Hollywood, devant plus de 50 millions de téléspectateurs dans le monde. Les Oscars, c'est le rêve américain que bon nombre de Français ont touché du doigt en remportant la fameuse statuette. Alors cette année, Emma Stone, Bradley Cooper, Robert De Niro, Ryan Gosling, Emily Blunt, Jodie Foster...
And the Oscar goes to...
Stéphane Boutsock. Stéphane Boutsock, vous avez vous aussi votre statuette. Bonsoir à vous,
sous vos applaudissements. Flavie, bonsoir tout le monde.
Vous êtes journaliste cinéma à RTL et vous allez prendre l'avion. Vous ne m'avez même pas prévenu que vous partiez demain.
Ça s'est fait très
pour
très
Hollywood.
Vite.
Oui, d'accord, mais enfin, vous emmenez qui dans vos bagages si vous ne m'emmenez pas
bagages.
Moi
Non, je ne peux pas vous
bagages.
Emmener. On fera un petit FaceTime de là-bas.
Avec joie. Bah oui, et puis si vous pouviez être accompagné de Bradley Cooper, ce serait assez sympa.
C'est ma mission cette année.
J'apprécierais ce petit FaceTime avec Bradley Cooper. Alors, est-ce que vous êtes content d'aller, d'aller aux Oscars pour RTL?
Ah bah oui, c'est une vraie fête du cinéma. Et puis là-bas, ça prend une autre dimension. On a nos Césars qui sont très très bien. Mais là-bas, oui, les Oscars, dans une ville comme Los Angeles, qui est une ville surdimensionnée, oui, c'est un moment. Moi, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Ça fait un bout de temps qu'on n'y est pas allé, d'ailleurs, pour RTL. C'était The Artist, je crois, il y a 12 ans.
Ouais.
Mais oui, puis il y a un enjeu, on va en parler. Il y a l'anatomie d'une chute.
Exactement,
quand même.
L'enjeu de Justine Triet. Mais d'abord, ce sera la 96e cérémonie des Oscars, la première ayant eu lieu en 1929. Mm-hmm. Ça vient d'où le nom Oscar?
Alors, c'est depuis 1939 qu'on appelle Oscar Oscar. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une disant que la bibliothécaire de l'Académie des Arts, qui est maintenant l'Académie des Oscars, aurait cru reconnaître vaguement son tonton, qui s'appelait Oscar. Donc, ça viendrait de là. Et puis, il y en a une autre, moi, que je préfère, c'est que Bette Davis trouvait que son compagnon de l'époque, nu, sortant de la douche, de dos, ressemblait un petit peu au bonhomme. Donc,
sexy.
On l'aurait appelé Oscar. Oui, c'est mieux, c'est plus glamour quand même.
Mais oui, justement, est-ce qu'on a les mensurations de la bête?
Alors, c'est un beau bestiau. Je parle de l'Oscar, je
oui,
parle
oui,
pas
j'ai
du...
J'ai bien compris, moi non plus.
On est
moi
bien
non
d'accord. Hein. Alors, la chose pèse 3,8 kg. Mesure 34 cm, je rappelle qu'on parle de la statuette.
C'est
évidemment,
un beau bébé
quand
même.
Que tout le monde se calme. C'est du bronze massif plaqué or qui fait 24 carats et qui coûte... Alors là aussi, il y a plusieurs estimations, on dit que ça coûte $400 et ça peut aller jusqu'à 850.
D'accord. Qu'est-ce que ça change pour un film en fait d'être récompensé aux Oscars? On va parler de tous les Français qui ont été sacrés à Hollywood. Mais est-ce que ça révolutionne la carrière d'un réalisateur ou même le destin d'un film?
Alors, ça peut booster grandement le destin commercial d'un film, notamment quand il n'est pas sorti dans tous les pays. Ça arrive par exemple en France, il arrive que les films américains qui sont récompensés viennent chez nous après, donc c'est une superbe carte de visite. Pour les films étrangers, oui, c'est un label dingue, mais comme la Palme d'Or l'est. Et puis après, pour le réalisateur ou l'acteur, oui, là par exemple, on reparlera de Justine Triet, mais elle m'a raconté qu'il y a plein de dîners avant les Oscars, elle a rencontré Steven Spielberg qui lui dit, moi j'adore votre écriture, ça serait formidable que vous m'écriviez un film. Donc oui, ça peut changer une vie. C'est un piège aussi parce que parfois les Américains vous proposent des choses très formatées quand on est européen et notamment français qui rentrent pas forcément dans vos codes à vous. Donc il faut pas se dire « Waouh, ma vie va changer, c'est le rêve américain ». Des fois, c'est pas tout à fait un rêve.
Bah, dans un instant, hein, je vais déflorer un petit peu le programme de cette émission. On aura Régis Vernier,
oui,
qui lui a été oscarisé et qui nous racontera s'il a tenté ou pas l'aventure du côté d'Hollywood. Vous parliez de Justine Triet, justement. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'échappe. Comment certains films français se retrouvent-ils aux Oscars? Est-ce que c'est l'Académie qui les choisit? Est-ce que c'est le pays qui les présente? Vous voyez, il y a eu toute l'histoire avec Dodin Bouffant.
Il y a
et je pense
choses.
Que certains d'entre nous n'ont pas compris.
Il y a d'abord l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Ça, chaque pays choisit un candidat qu'il propose à l'Académie. L'Académie en retient d'abord 15 et puis 5 finalistes.
Comme l'Eurovision.
Exactement.
Grosso modo.
Cette année, le candidat de la France n'était pas Anatomie d'une chute, c'était La Passion de Dodin Bouffant, qui a été dans les 15 demi-finalistes et qui n'est pas au final dans les 5 finalistes.
Ce qui veut dire que la France ne concourt absolument pas pour le film
pas
étranger parce
absolument.
Que rien n'a été retenu. Donc ça veut dire que si on avait mis Anatomie d'une chute, on aurait peut-être eu
alors,
une chance d'y
oui,
aller.
Oui, je pense que le film s'y serait retrouvé, mais l'Académie des Oscars part est souveraine et peut dire bah, moi ce film-là, il est peut-être pas le candidat du pays en question, mais je le retiens. C'est ce qui était arrivé à La Môme, c'est ce qui était arrivé à The Artist, et c'est ce qui arrive à Anatomie d'une chute, qui est dans 5 catégories, sauf celle du film étranger.
Alors ça c'est dingue, et justement je voudrais que l'on écoute une sorte de petite archive. C'était le 23 janvier dernier, était annoncé ceux qui pouvaient prétendre à la statuette, donc choisie par l'Académie. La réalisatrice d'Anatomie d'une chute, Justine Triet, était avec son équipe, sa productrice aussi, Marie-Ange Luciani. Écoutez.
Oh putain, c'est nous.
Quoi?
C'est génial.
Best Picture, ça veut dire quoi? J'adore.
Best Picture, ça veut dire quoi? Et on la voit, mais j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller découvrir ces images. Elle est devant l'ordinateur.
Ah bah ouais, vous
et
rendez
en
compte.
Fait, non mais c'est dingue. Et effectivement, c'est l'euphorie dans son équipe. Vous la connaissez, cette équipe d'ailleurs?
Ah oui, Marie-Ange Luciani, qui sera d'ailleurs à Los Angeles avec toute l'équipe. Il y a une grosse délégation française. Thierry Frémaux, le patron du Festival de Cannes, sera là-bas. Ouais. Les deux producteurs, le distributeur du film, Justine Triet, son compagnon, qui est aussi son scénariste. Oui, c'est une belle fête. Quoi qu'il se passe dimanche soir, c'est cherry on the cake, pour être à l'américaine, cerise sur le gâteau.
Et vous serez justement de la partie. Vous êtes avec nous, en tout cas, juste avant de prendre votre avion, avec nous dans les studios d'RTL. C'est pas la même chose, mais
non,
on est plutôt bien.
Bien.
Dans un instant, c'est Régis Varnier qui va nous rejoindre. Il nous fait le plaisir, justement, de nous accorder quelques instants pour nous raconter comment il a vécu, lui, cet Oscar pour le film Indochine. Régis Varnier qui est en tournage, on le remercie par avance.
Vraiment.
De nous accorder du temps. Et puis, on va vous raconter les coulisses de la cérémonie et revenir sur les grandes victoires françaises avec un Jean Dujardin. On l'écoutera qui était en pleine forme. A tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Jour J à Hollywood. On foule le tapis rouge des Oscars car c'est dimanche qu'aura lieu la cérémonie glamour du cinéma américain qui récompense aussi chaque année un film étranger. Stéphane Boutsock, vous êtes notre invité. Vous allez couvrir l'événement. Merci d'être avec nous. La France, elle s'est déjà bien distinguée. Hein,
ah oui, mais si on regarde la liste de celles et ceux qui ont obtenu l'Oscar du meilleur film étranger ou en langue étrangère. Allez, on peut en prendre quelques-uns. La Victoire en chantant, Jean-Jacques Hano, La Nuit américaine de Truffaut, Z de Costa Gavras, Un homme et une femme, évidemment, de Claude Lelouch, Mon oncle de Jacques Tati, Jeux interdits, Préparez vos mouchoirs, et puis, en 93, un petit film,
je me souviens.
Indochine de Régis Varnier.
Voilà,
merveille.
Régis Varnier qui est avec nous, justement, et qui a la gentillesse, alors qu'il est en tournage, de nous accorder quelques instants ce soir pour se rappeler. C'était en 1993. Régis Varnier, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, Régis. Ça fait donc 31 ans. Bon, alors déjà, on se prend le petit coup, le petit coup de pelle en se le rappelant. Et pourtant, alors figurez-vous que moi, je m'en souviens très bien. J'ai tellement aimé ce film qui m'a tellement fait voyager, et dans le temps, et évidemment dans l'histoire. La saveur de cet instant-là, elle est toujours intacte pour vous?
C'est loin, mais c'est très vivace quand même. Mon seul regret, c'est que personne ne m'a succédé en 31 ans. C'est un peu dommage. Il y a peut-être eu aussi des choix qui n'étaient pas les bons. Ça, c'est toujours le problème avec cette commission. Je me souviens qu'ils n'avaient pas sélectionné La Môme.
Oui, bien sûr.
Voilà. Alors que Marion Cotillard était en lice pour la meilleure actrice, elle a gagné. Donc, c'était favorable. Voilà. Mais en tout cas, moi, non, je ne peux pas oublier ça. Mon souvenir, c'est que j'ai manqué d'air.
Quand
Glenn Close dit « And the winner is France for Indochine », j'ai eu une espèce de manqué de souffle. Il fallait se lever, traverser la salle, monter, dire un discours. Vous avez 45 secondes. Au bout de 45 secondes, la musique vous coupe. Donc, voilà. Et puis, ce qui était extraordinaire là-bas, le meilleur souvenir, c'est comme tout le monde y filmait, la salle est éclairée, et que là, vous avez tout Hollywood vous regarde. Il y a Sharon Stone, il y a Meryl Streep, il y a Glenn Close, il y a Clint Eastwood, il y a Jack Nicholson, il y a tout le monde. Et comme les Américains aiment les gagnants, tout le monde vous sourit.
Évidemment.
Et ça, c'est super et c'est très, très agréable. Voilà.
Et on va justement écouter cet instant parce qu'on a l'archive qu'on en avait envie de partager avec nos auditeurs.
And the Oscar goes to France, Indochine, Régis Varnier.
Donc c'est
la
là que Régis n'a plus
Glenn
de souffle.
Close. Et là, voilà, Régis est à bout de souffle, pour reprendre le titre d'un autre film. Régis, petite question qu'on se posait avec Flavie. On entend, vous nous dites, c'est loin, etc. Cet Oscar, il est où aujourd'hui?
Il est chez le producteur Eric Goeman.
Ah, donc vous n'avez
vous
pas de
Oscar. Vous l'avez partagé avec votre producteur. Vous n'avez pas l'objet
plus,
à la maison.
Qui est peut-être plus fétichiste que moi, si je peux le dire ainsi. Non, vous savez, ça ne me dérange pas, parce que je sais que je l'ai eu. À savoir que l'Oscar est remis en général aux États-Unis à un producteur.
Oui, c'est vrai.
Donc là, on aurait pu se le partager. Mais d'ailleurs, je lui demande de temps en temps, je lui dis, mais si je fais une boum chez moi, tu peux me le prêter.
L'Oscar est en garde alternée.
Il me dit qu'il l'enverra avec un vigile. Il est un peu amoureux de son Oscar.
Mais je me demandais ce que représentait un Oscar, quelle était la valeur d'un Oscar, qu'est-ce que ça représente dans votre carrière, parce que vous avez été multi-récompensé pour Indochine et pour tant d'autres films. Qu'est-ce que ça représente un Oscar dans une carrière de réalisateur?
Alors ça représente, tout d'un coup vous avez un agent à Hollywood, et après il commence à vous envoyer des scénarios en disant on te les envoie parce que ça a un goût européen. Alors je leur réponds, mais goût européen, je peux le faire en Europe, j'ai pas besoin de vous. Je pense que si vous voulez utiliser l'Oscar, il faut faire un film en Amérique à la manière américaine, c'est-à-dire on arrive, le scénario est écrit, les acteurs sont engagés, vous êtes là pour tourner, monter, vous rendez la copie, le producteur dit ça me va pas, et après il prend les choses en main. Il faut le jouer à l'américaine.
Ça n'a pas été possible
pour
vous, ça,
Régis. J'ai pas eu envie. Ouais. Ah si, j'ai un regret. J'étais en liste A pour Journal d'une Geisha.
Ah, bien.
Ils se sont dit, ils confondent tout. Ils ont dit, un des Indochine, Geisha, a dit, c'est bon pour lui. Je l'ai reçu en même temps que Ridley Scott, je crois, et d'autres. Et moi, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai fait dire par mon agent, je veux le faire et je veux le tourner en japonais. Parce que quand vous connaissez le Japon, le langage, la voix qui sort d'un corps, elle est tout fait partie du corps et de l'attitude. Ils m'ont dit, non, on a déjà engagé des Chinoises de New York. Je dis, bon, bah, écoutez, ça sera sans moi. Le film n'est pas bien du tout.
Pas de regret.
Non. Et il y avait mon pote de Palma, Brian de Palma, qui me disait, ne viens pas à Hollywood, garde ton indépendance, garde ta liberté, garde ton droit de couper ton film comme tu veux. Tu n'y gagneras rien.
Ouais. Par contre, donc, Régis, est-ce que vous avez eu des envies d'acteur ou d'actrice? Parce qu'on rencontre du monde, vous nous l'avez dit aussi.
Qui n'a pas envie de faire tourner Meryl Streep, Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, il y a énormément de monde, mais je pense que la machine américaine telle qu'elle est conçue, elle est pas forcément. On a une sacrée éducation européenne et française quand même sur le cinéma. Je trouve qu'on n'est pas forcément adapté. Mais curieusement, j'ai eu plus de propositions après East West qui s'est retrouvé en finale.
En 2000,
en 2000. Et on a été battu d'une courte distance par Almodovar. Ça, c'est normal. C'était son année. On avait le même distributeur. J'ai passé la soirée des Golden Globes et la soirée des Oscars avec Catherine Deneuve, Penélope Cruz et Almodovar, et je savais qu'il allait gagner les deux, parce que moi, on avait les mêmes distributeurs qui m'ont dit, écoute, toi, tu l'as eu cette année, c'est l'année de Pedro. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire de la figuration intelligente pendant les deux soirées.
C'est intéressant la façon dont vous en parlez, parce que vous avez un recul, évidemment, sur tout ce dont on va parler pendant toute cette émission. C'est intéressant aussi d'entendre que finalement, vous n'avez pas concédé à la loi d'Hollywood. Mais quand on arrive aux Oscars et qu'on est nommé pour le meilleur film étranger, on doit se prêter à toute une promotion aussi avant la cérémonie.
Moi j'avais fait beaucoup de promotions avant. Ils m'avaient fait faire 12 villes américaines. Je faisais une ville par jour. J'arrivais à 17h dans une ville. On me foutait à l'hôtel, on me laissait tout seul, room service. Le lendemain, dans le salon de la suite, il y avait déjà des caméras et des radios. Et vers 15h, je prenais la route de l'aéroport, une autre ville. Voilà. Ça m'a amusé. Ils ont beaucoup bossé. Ils ont même mis en place quelque chose de très intéressant pour les Golden Globes. Catherine Deneuve, je crois, a remis le Golden Globe du meilleur metteur en scène à Clint Eastwood, ce qui fait que toute l'Amérique l'a vu. Je pense que tout ça a fait partie de sa nomination aux Oscars qui est arrivée derrière.
Régis, vous nous avez cité tout à l'heure les personnalités avec lesquelles vous aviez passé la soirée, tout ce Hollywood dans la salle. Est-ce qu'il y a un moment, une rencontre, je ne sais pas, une discussion? Gérard Jugnot raconte pour les choristes, il s'est retrouvé aux toilettes avec Clint Eastwood, donc je pense que ça marque une vie. Est-ce que vous avez un moment comme ça?
J'ai un moment Oscar, une soirée à San Francisco avec les scénaristes, on parle des Beatles. On chante, le restaurant se met à chanter, chacun donne sa chanson préférée. Le lendemain, je suis à Hollywood pour aller voir Disney. Je vais aux toilettes et il y a quelqu'un qui tape sur la porte, qui me dit « je suis pressé ». Je dis « excusez-moi, je finis mon travail ». Je sors Ringo Starr.
Ah, ben voilà.
Wow. Quelque chose.
Là. Comme quoi, les toilettes.
Il se passe toujours des trucs dans les toilettes.
Je voulais dire un mot sur les Oscars, parce que je pense qu'il y a une analyse qui n'a pas souvent été faite par rapport à l'année dernière. Parce que quand vous connaissez Hollywood, la tradition des Oscars, et Steven Spielberg et sa carrière, qui fait un film, enfin, sur son enfance, son amour du cinéma, un film où il raconte des choses passionnantes, il est archi favori. Et il est battu par Everything Everywhere All at Once. Et là, ça veut dire que la génération majoritaire votante a totalement changé. Oui, ça n'aurait pas dû échapper à Spielberg. Et là, tout d'un coup, c'est les trentenaires, les cadras qui votent. Il y a une ère qui a changé, qui a permis aussi l'éruption de Parasite dans le jeu américain, qui permet cette année aussi l'arrivée d'Anatomie d'une chute. J'ai l'impression qu'on verra mieux dans quelques années avec la bonne distance.
Vous avez vu Anatomie d'une chute de Justine Triet, qui n'est pas donc en lice pour le meilleur film étranger, mais qui l'est pour d'autres catégories, 5 catégories. Est-ce que vous pensez justement que les Oscars peuvent saluer le travail de Justine Triet ?
Écoutez, pour l'instant, ce qui ressort des récompenses qu'elle a eues par ailleurs, c'est, je crois qu'elle a toujours eu le scénario, qui, je pense, est mieux placé pour elle. Les actrices, il y a Sandra Hüller, mais en face, il y a Emma Stone. Peut-être que j'en oublie. Alors évidemment, il y a meilleur film et meilleure réalisation. Oppenheimer est quand même un concurrent sérieux. J'ai l'impression que Nolan n'a jamais été récompensé à ce niveau-là. Mais elle est le parfait outsider, quoi.
C'est ce que vous dites.
Mais j'ai l'impression que sa carrière américaine pour l'instant est peut-être un peu moins puissante que celle de Parasite au même moment, à quelques jours des Oscars. Maintenant, tous les deux partaient avec la Palme d'Or, ce qui est quand même...
Ah oui,
il y a des similitudes.
Ce qui est un joli passeport de départ, oui.
Bien vous souscrivez à l'analyse.
Oui, je pense que le scénario, il est fait, en effet, pour Anatomie d'une chute. Généralement, le montage va avec le meilleur film, donc ça va quand même être assez chaud.
Vous parlez montage, mais le problème des montages, c'est comme pour les Césars. Je veux dire, les gens n'ont pas d'imagination. Dès qu'ils voient un flashback, ils donnent le montage. Alors que le flashback, souvent, il est dans le scénario. Donc,
Justement, on va, nous, non pas faire un flashback, mais on va se projeter un petit peu. Vous êtes actuellement en tournage. Qu'est-ce que vous faites ? On peut en savoir un petit peu plus ?
Je tourne un film qui s'appelle La Réparation, je l'ai également écrit. C'est l'histoire d'un mystère et d'une disparition. C'est un grand chef gastronomique qui disparaît le jour où il est récompensé. Et puis, il est interprété par Clovis Cornillac. Sa fille, c'est Julia Deninez. J'ai aussi dans la distribution Clotilde Courault, Louis-Do de Langsin et de formidables acteurs taïwanais parce que dans 10 jours ou 20 jours, nous partons à Taïwan pour la suite du tournage.
Bon, on se reverra pour la sortie.
Exactement. Régis. Tenez-nous au courant. Merci en tout cas de nous avoir fait rêver, de nous avoir emmenés à Hollywood 31 ans après. Et puis cette analyse qui est la vôtre et qui est véritablement délicieuse. Merci beaucoup Régis Varnier. Bon tournage
à bientôt.
À vous.
Merci,
et à très bientôt.
Merci à vous.
J'espère. Merci à vous.
Au revoir.
Et c'est donc bientôt votre tour, mon cher Stéphane Boutsock. Vous restez avec nous. Dans un instant, vous allez nous raconter les coulisses de cet événement qui a réuni quand même 57 millions de téléspectateurs dans le monde l'an dernier. Vous prenez donc l'avion demain en direct de Los Angeles sur cette antenne dimanche pour la cérémonie et avec nous ce soir sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
C'est ça, Jour J. On vous parle de l'actualité, de toutes les actualités. Et l'idée, c'est d'apprendre des choses dans cette émission. Et ce soir, nous sommes quelque part déjà au théâtre Dolby Theatre de Los Angeles. La cérémonie des Oscars, ce sera dimanche. Elle sera présentée par Jimmy Kimmel. C'est la 4e fois. Stéphane Boutsock, vous êtes notre invité. Est-ce que vous serez dans la salle, vous ? Comment ça se passe quand on est journaliste et qu'on va couvrir les Oscars ?
Alors, on ne sera pas dans la salle parce que si vous êtes dans la salle, d'abord, la cérémonie est très très longue et puis vous ne pouvez pas intervenir.
Oui, tu peux rien faire.
On ne peut pas sortir, etc. On ne peut pas louper quelque chose pour faire un direct. Donc, on sera en dehors de la salle, vraiment, tout à côté du Dolby Theater, et puis surtout après, pour courir après Justine Triet et parler de ses Oscars. En effet, elle est nommée 5 fois, j'espère bien qu'il y en aura au moins, mais je pense qu'il y en aura un minima, un.
D'accord.
Meilleur scénario, moi je pense que c'est pour
elle. C'est votre pronostic en fait, Stéphane Boutsock. On sait combien elle coûte, cette petite sauterie là, ça coûte cher.
C'est le prix d'un film. Enfin, c'est le prix d'une grosse production américaine.
Film français, un film américain, c'est pas le même budget, non ?
Non, c'est autour de 40 millions de dollars. C'est une des plus belles soirées de l'année à la télé américaine, avec énormément de publicité. Le tapis rouge dure, allez, quasiment 3 heures. Et il y a des choses formidables, parce que sur la chaîne qui retransmet, il y a les spécialistes cinéma qui chopent les stars au passage, et puis il y a un ou une, moi je me souviens que c'était un à l'époque, qui n'est dédié qu'aux robes et aux costumes. C'est-à-dire que lui, son boulot, c'est de commenter en quoi la machine est habillée, si c'est Dior, Chanel ou Marc. Pourquoi le gars, il a un smoking rose et l'année dernière, il était en bleu, et on donne presque des notes avec des ralentis et tout. Ah non, mais c'est mythique. Le tapis rouge, c'est merveilleux.
Mais alors attends, donc le tapis rouge, donc il précède la cérémonie pendant 3 heures.
Ça dure 3 heures.
C'est vrai qu'il fait 1500 mètres carrés, ce tapis rouge.
Ah oui, c'est énorme. En fait, il se trouve sur Hollywood Boulevard. Vous savez, c'est l'endroit à Los Angeles où il y a les étoiles avec le nom des stars. Et l'entrée l'entrée du Dolby Theater est tout au bout. Mais oui, il est notamment recouvert aussi, parce que parfois il pleut à Los Angeles. Mmh. Ça, j'ai regardé la météo. C'est couvert, mais sympathique dimanche. D'accord. Donc tout est prévu. Il y a du public. Ah non, mais c'est presque une foire aux bestiaux. C'est le salon de la culture. Hein.
Non mais attends, oui, peut-être plus glamour quand même.
Mais il y a très beaux bestiaux, selon l'agriculture.
Ah mais attends, mais tu m'étonnes. Ah oui, mais c'est vrai, j'en ai vu.
Bien sûr.
J'ai vu de belles bêtes, mais je suis plus habituée au salon de l'agriculture qu'aux Oscars, malheureusement. Non mais c'est incroyable, parce que ce que vous nous expliquez, c'est que le spectacle, il commence avant même la cérémonie.
Et ça doit commencer vers 16h30, heure locale, puisque la cérémonie est très tôt aux États-Unis. C'est un spectacle, c'est un show.
Parce qu'on est bien d'accord que le tapis rouge, c'est pas la grande spécialité française.
Non,
c'est plus discret.
Au César, ça va beaucoup plus vite, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'on arrive vite dans la cérémonie. Ouais. Mais en fait, tout dépend des retransmissions télé. Nous, nos prime time en télé, c'est les 21h. Là-bas, c'est beaucoup plus tôt.
Est-ce que c'est compliqué de se faire une place en tant que journaliste? Parce que j'imagine qu'il y a le monde entier qui vient couvrir l'événement. Alors comment ça se passe?
Il faut se faire accréditer très très tôt, mais à ce moment-là, c'est un pari, parce que quand les accréditations ouvrent, on ne sait pas, nous, si nos films français y seront. Et quand on a su qu'Anatomie d'une chute était nommée 5 fois, c'était trop tard, en plus, pour s'accréditer.
D'accord, voilà. Ok. Donc là, cette année...
Mais je ne regrette pas du tout, en fait, parce que c'est très bien de le vivre dans la rue, parce qu'il y a du public assis sur écran géant, c'est un vrai spectacle. Et puis après, d'essayer de courir à droite à gauche.
Et ça veut dire que Los Angeles devient plus que jamais la ville du cinéma?
Partout.
Les Oscars sont complètement...
Partout, il y en a dans tous les journaux, il y en a dans tous les spots télé. Les rues, évidemment, sont bloquées dans tout le coin autour d'Hollywood. Oui, vraiment.
Est-ce qu'on peut croiser des stars comme on en croise, par exemple, au Festival de Cannes?
Non, c'est très compliqué. Non. Ah. Il faut avoir après le petit sésame pour aller dans la fête ou les fêtes, parce qu'il y a plein de fêtes après. Il y a une fête incontournable qui est juste après. En fait, il y a la cérémonie, il y a ce qu'on appelle le bal du gouverneur, qui est le dîner officiel où les vainqueurs font généralement un saut diplomatiquement. Après, il y a la fête à ne pas manquer, qui est la fête de Vanity Fair, on fait de la pub, mais aux États-Unis c'est un poids énorme, et c'est un des contributeurs en plus aux Oscars, donc il faut y faire un saut. Et après, il y a plein de fêtes partout. Moi, je me souviens quand Marion Cotillard avait eu son Oscar pour La Môme, on y était allé, c'était un film RTL, on l'avait retrouvée en fait que le lendemain matin, parce qu'elle était, alors ça va faire très très chic, parce qu'elle était allée à la fête d'Elton John, où il y avait juste Stevie Wonder et Prince qui avaient fait un petit duo, donc elle y avait passé plusieurs heures, et on l'avait pas revue en fait, Marion Cotillard, on l'avait revue le lendemain sur le toit d'un immeuble à 8h du matin avec son Oscar, je me souviens très très bien.
Dites-moi, c'est vrai que les nommés, ils ne repartent jamais les mains vides?
Ah mais non, ça existe au César aussi. Alors, mais pareil, c'est pas le même budget.
Pour les mêmes montants?
Non, c'est pas le même budget. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars de prix. Ils ont tous un panier garni qu'on rêverait tous d'avoir. Il y a des voyages, il y a des cadeaux cosmétiques, il y a des tenues, il peut y avoir des voitures, il peut y avoir même des terrains. On dit qu'on peut avoir un terrain en Écosse, comme ça on devient lord ou lady. Enfin, mais c'est hors de proportion.
Et l'année dernière, paraît-il qu'il y avait une huile d'olive infusée en paillettes d'or.
Mais moi, j'ai fait une petite salade avec, c'était très très sympathique.
C'est dire si on en a besoin, effectivement, pour nos tomates mozzarella. On va se retrouver dans un instant. Maintenant, je voudrais que l'on parle de ces Français qui ont brillé à Hollywood. Et on a beaucoup parlé de Marion Cotillard, on a beaucoup parlé de Jean Dujardin, mais il en est d'autres, évidemment, avant eux, qui ont ouvert la voie avec vous dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
Et toujours en compagnie de Stéphane Boutsock, avant qu'il parte en smoking.
Je vais partir en truc un peu confortable quand même.
Oui, mais
j'ai quand même 11h50 d'avion là.
Le mec à l'aéroport en direction des États-Unis de Los Angeles. Déjà en costume.
Élégant, on est bien d'accord. Mais pas smoking.
Attends, et le soir quand même des Oscars, vous allez mettre votre smoking?
Je suis dans la rue, je vais pas me balader en smoking.
Mais attends, on pourrait vous prendre pour une star.
Oui, non, ça n'arrivera pas. Mais non, mais vous aurez une photo, ça sera élégant.
Excusez-moi de vous dire que vous avez une bonne gueule. Acteur américain.
Ah, très bien.
Ah, vous pourriez... Non, mais c'est vrai, on pourrait le mettre dans un film d'action, Stéphane Boutsock. Hein. Attends, écoutez. Là, ça y est. T'imaginez, c'est pour vous.
Pas mal.
Oscar goes to Stéphane Boutsock. Ah, bah, vous voulez qu'on joue une comédie romantique?
Volontiers.
Ah, ça y est.
Quand
vous voulez que je fasse Meg Ryan? J'allais vous le faire. Ah non, je vais quand même pas vous faire l'orgasme de Meg Ryan, quand même.
Non.
Parce que je le fais très bien, Meg Ryan, vous
d'accord.
savez.
Mais la scène...
Ah, je fais la scène de l'orgasme de Meg Ryan. Oui, monsieur. On y va?
Où?
Dans l'interview, on va poursuivre.
D'accord, on retourne à l'interview.
Qui détient le plus grand nombre d'Oscars? C'est pas un Français, on va en parler des Français.
C'est Walt Disney? 22?
Attends, c'est génial.
Et puis ça continue, parce que les films Disney, généralement, sont nommés tous les ans aux films d'animation. Donc c'est la marque qui en possède le plus. Chez les dames, c'est Katharine Hepburn qui en a reçu 4. Et chez les garçons, c'est Daniel D. Lewis qui en a reçu 3. Et comme il a pris sa retraite officiellement, il n'en aura pas 4e.
Les Français ont brillé déjà de nombreuses reprises et de tout temps. J'ai été très surprise en préparant cette émission de voir à quel point finalement les Français apparaissaient dans les lauréats des Oscars.
Et pas forcément d'ailleurs dans l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, parce que on va en parler, acteur, actrice, réalisateur, beaucoup, documentaire.
Musique.
Bien sûr, et puis les techniciens, on a des merveilleux techniciens dans les costumes, etc., qui ont été sacrés plusieurs fois.
Alors je ne sais pas si ce sont les premières images de Français aux Oscars, on est en 1960, tu vois, c'est en noir et blanc, ces images-là, et c'est Simone Signoret.
Simone Signoret, room at the top!
Simone Signoret.
Oh, thank you. I thank you so much. I wanted to be very dignified and all that. I can't. You can't imagine what it is for me being French. You can't imagine.
Elle parle d'ailleurs en anglais. You can't imagine.
Imaginez.
Voilà, vous ne pouvez pas imaginer, moi qui suis française, que c'est meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute Ville de Jacques Clayton. Alors, le film.
Le film, on l'a un tout petit peu oublié.
On est d'accord. En revanche, Simone Signoret, là, elle a marqué l'histoire du cinéma français.
Bien sûr, oui. Et puis moi, je vois très, très bien les images. Elle est sublime, en plus. Elle est très, très, très émue et ça se voit. Ouais. Mais comme certains autres qu'on va entendre, notamment le suivant, je pense, elle est très émue. Elle est rayonnante, quoi.
Oui. Et puis vraiment, j'invite aussi ceux qui nous écoutent à aller voir ces images. Oui. On est noir et blanc, ça date des années 60, les micros ne sont pas les mêmes.
Et c'est une toute petite cérémonie encore à l'époque, hein. C'est pas un show.
Exactement. Hein. Oui, et 7 ans plus tard, c'est Claude Lelouch qui reçoit la fameuse statuette.
Thank you very much. I'm sorry, I don't speak English. But Un homme et une femme est un film d'amour. Il a eu beaucoup de succès dans votre pays. Je voudrais maintenant qu'il y ait plein de metteurs en scène qui fassent des films pour que cessent toutes les guerres du monde. Merci. Thank you very much.
C'est un jeune homme de 30 ans qui parle, là. Hein. Ouais, vraiment. Un homme et une femme, qui est ce film miraculeux, qui avait eu la Palme d'Or quelques mois auparavant. Et si vous allez voir ces images, parce que celles-ci aussi, elles existent, c'est Ginger Rogers et Fred Astaire qui lui remettent son Oscar. Et vous savez que dans la ville de Louche, il n'y a pas de hasard, pas de coïncidence. Et ben, ces deux-là, c'était les acteurs préférés de ses parents. Et ses parents lui ont fait découvrir le cinéma en emmenant voir les films de Fred Astaire et Ginger Rogers.
Donc,
c'est merveilleux,
Claude,
quand même.
Claude y a forcément vu encore un film.
Forcément.
Parce qu'on en voit partout.
On n'était pas un 13, mais en tous les cas, oui.
Exactement, parce qu'effectivement, le 13, c'est le nombre fétiche donc, de Claude Lelouch, qui du coup possède le théâtre 13, dont la boîte de prod s'appelle
Les Films 13.
Les Films 13. Voilà, Claude Lelouch, que l'on embrasse et qui sera très certainement en train de regarder les Oscars.
Bien sûr.
Et qui se rappellera.
Il est votant,
oui, parce que quand
vous êtes nommé, même, vous devenez votant. Et encore plus quand vous gagnez, et il en a gagné 2 cette année-là, meilleur film étranger, et également meilleur scénario.
En 1974, La Nuit américaine de François Truffaut remporte l'Oscar du meilleur film étranger. Alors là...
Ah oui, j'avais oublié la musique.
Eh ouais.
Truffaut. Bah, c'est pareil. Alors les Américains, ils sont fascinés par notre nouvelle vague. Hein. Ouais. Or, Godard a jamais été oscarisé, mais Lelouch qui... aurait pu faire partie de cette nouvelle vague, même si ça a été compliqué. Mais oui, Truffaut, c'est un des emblèmes de notre cinéma, aujourd'hui encore, en tous les cas, dans les écoles de cinéma américaines.
En 97, Juliette Binoche est sacrée meilleur second rôle dans le film Le Patient Anglais de Anthony Minghella. Absolument incroyable film. Et puis justement, on entendait la musique de La Nuit américaine. On ne va pas oublier les compositeurs français, dont le talent a été maintes fois reconnu à Hollywood. Écoutez...
Le désert.
Arrête. Bah oui, enfin Laurence d'Arabie surtout.
Bah oui, dans le désert, il y a Laurence d'Arabie.
D'accord. Et mais les
chameau.
Yeux de Laurence d'Arabie, quoi.
Et son chameau.
Ce que je veux dire. Et son chameau. C'est la bande originale signée Maurice Jarre.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, un des grands compositeurs français oscarisés. Je pense aussi à Alexandre Desplat qui a pris la relève et qui est très très souvent nommé, qui a été plusieurs fois récompensé et qui se réclame d'ailleurs de l'héritage de Maurice Jarre, absolument.
Allez, on se retrouve dans un instant et on revient sur le sacre de The Artist en 2012 et la joie de Jean Dujardin.
Waouh, putain, génial, merci, formidable.
toujours en compagnie de Stéphane Boutsock pour vous emmener aux Oscars en 2012, mon cher Stéphane. Il est un film muet de Michel Hazanavicius qui vit une aventure alors extraordinaire à Hollywood. C'est The Artist. Ça a fait rêver la France entière. C'est un film qui a rendu, je dirais même, la France fière. Meilleur film, meilleure musique, meilleur réalisateur, meilleure création de costumes et le sacre de Jean Dujardin.
And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist.
Whoa. Thank you. Wait. I love your country. If George Valentine could speak, he'd say,
Wow, putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you.
Voilà, en référence au personnage, effectivement, dans The Artist.
Qui ne parle pas dans The Artist, c'est pour ça qu'il dit s'il pouvait parler.
Exactement. Alors ça, écoute, moi j'étais devant ma télévision ce soir-là.
Eh ben moi j'y étais.
Eh ben, vous avez vachement plus de chance que moi parce que j'aurais adoré y être.
C'est un moment magique. Écoute,
oui, et puis alors moi ce que j'ai aimé, parce qu'on entendait il y a un instant tous ces Français qui ont été récompensés, il y a quelque chose de très protocolaire dans le fait de recevoir certains qui choisissent de parler en anglais, d'autres qui décident, comme Claude Lelouch, de parler en français. But Un homme et une femme est un film, donc c'est hyper mignon. Et alors Jean, là, il est dans un truc, mais tellement spontané, tellement vrai.
Mais il fait même un truc qu'on n'a pas le droit de faire à la télé américaine.
C'est-à-dire
qu'il dit, on peut dire,
il dit un gros mot.
Il dit putain. Et s'il avait dit fuck,
il aurait été coupé, il y aurait eu des
soucis, parce qu'on peut pas. Et je me rappelle après, quand on l'avait retrouvé, puisqu'on y était allé, puisque RTL était partenaire de The Artist, quand il était arrivé, je lui ai dit, tu te rends compte, t'as dit à la télé américaine. Il dit bah oui, mais j'étais heureux.
Ben, il avait l'air tellement heureux. Il était comme
images.
Un gamin, quoi.
Mais bien sûr. Alors, c'était là aussi l'aboutissement d'un long chemin qui avait commencé à Cannes. Il avait eu tous les prix de l'automne, notamment le Golden Globe. Je dis pas qu'il était favori, mais quand même. Mais voilà, il monte sur scène. C'est le meilleur acteur du monde. En tous les cas, ce soir-là, quoi. À ce moment-là. Et c'est une joie géniale. Vraiment.
Une joie partagée, effectivement, avec Michel Hazanavicius, parce que c'est un film qui a été multi-récompensé aux États-Unis.
Multi-récompensé. Très, très vu, parce qu'on dit souvent, parfois, que les Oscars représente des films un peu élitistes. Là, pour le coup, The Artist, ça a aussi été un vrai succès populaire dans le monde entier, et notamment en Amérique. Mais c'était leur histoire, hein. C'était le Hollywood du cinéma muet qui passe au parlant. Donc ça leur racontait plein de trucs.
On a entendu tout à l'heure Régis Varnier qui nous parlait avec tellement de recul et tellement d'humour, voire de cynisme aussi, des Oscars et de tout ce qui se passe à Hollywood, à Los Angeles. Est-ce que finalement, vous avez vu, vous aussi, à travers Jean Dujardin et Michel Hazanavicius, non pas du cynisme, mais une sorte d'émerveillement? Parce que j'imagine que quand on est comédien, qu'on est une équipe française et que tout à coup on débarque dans la cité mondiale du cinéma, on peut pas se la péter. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, non, mais bien sûr.
On est un petit peu dans un film.
Alors après, je me souviens qu'ils avaient très, très, très envie tous les deux de profiter de ce moment, en effet, qui, c'est ce que dit aussi Justine Trier aujourd'hui, qui arrive une fois dans une vie, logiquement, quand on est un cinéaste français, d'avoir, ils étaient nommés 7 fois quand même, The Artist. Mais en tous les cas, ils n'étaient pas dupes et il n'y avait pas cette envie de succomber à un éventuel rêve américain. Ils se sont dit, on y va, c'est une fête, c'est la fin d'une aventure incroyable ce qui nous arrive, on va profiter. Moi, je rappelle, c'était le mot. On a profité. Dujardin avait fait toute la campagne, il avait retrouvé ce soir-là son pote Clooney. Moi, je me souviens de la fête après, c'était un moment de bonheur. Il n'y avait pas de calcul en se disant on va en profiter.
Il n'y avait pas de stratégie.
Non, on va en profiter au sens où on va faire une carrière.
Mais d'ailleurs, Jean, il est resté en France.
Oui,
il était super content de revenir en France.
Il est allé tourner chez Scorsese un petit peu, chez Clooney un petit peu, mais d'abord, il ne parlait pas anglais et il n'avait pas envie d'apprendre. Et puis, pour faire carrière là-bas, on va en parler avec notre candidate suivante, il faut s'installer. Il faut vraiment jouer le jeu. Et ça n'intéressait pas Jean Dujardin.
Ce qu'a fait effectivement celle dont nous allons parler maintenant, puisque c'était quelques années auparavant, The Artist, une autre Française vers qui tous les regards étaient tournés.
And the Oscar goes to Marion Cotillard, La Vie en Rose.
Oh, thank you so much. Olivier. What you did to me, Maestro Olivier Dahan, you rocked my life. You've truly rocked my life.
T'as boosté
Thank
la vie,
you
en fait.
So much to Picture House for your passion, Members of the Academy, thank you so much.
Elle sait super bien le faire. Et en même temps, elle a la voix qui chevrotte d'émotion, c'est magnifique.
Oui. Et moi, je peux vous dire un truc, parce que j'étais arrivé 2 jours avant, et le matin des Oscars, ça, c'est les anglo-saxons qui font ça, dans les journaux, il y a les bookmakers qui parient sur les candidats et les candidates. Et je me souviens très bien, j'avais appelé la rédaction en leur disant, oh, elle est dernière. C'est-à-dire qu'on lui donnait genre 8% de chance d'avoir l'Oscar. Et le soir, je me rappelle très bien ce moment-là, et là, je me rappelle de sa robe, qui était une robe de Jean-Paul Gaultier. Elle ressemblait à une sirène. Et oui, elle n'était pas favorite. Et c'était incroyable ce qui s'est passé. Mais elle, à l'inverse du jardin, elle est restée. Et il y avait déjà des projets à ce moment-là. Et elle a enchaîné avec Michael Mann. Elle a tourné avec les plus grands, avec Christopher Nolan. Voilà. Elle a une carrière américaine, Marion Cotillard. Parce qu'elle l'a voulu, hein, vraiment.
C'est ça. C'est parce qu'en fait, c'est comme l'expliquait Régis Vernier. Quoi. C'est l'acceptation de la part d'un comédien de faire des concessions. Il y a des comédiens qui sont faits pour bosser avec les Américains et d'autres pas. Quoi.
Voilà. Catherine Deneuve n'a jamais voulu, ça ne l'a pas intéressée. Marion Cotillard, c'était un objectif, tourner avec de grands réalisateurs et entamer en effet une carrière, mais pas par opportunisme, juste parce qu'elle trouvait que c'était un terrain de jeu formidable.
Et elle l'a formidablement fait.
Et elle continue de le faire,
évidemment.
Bien sûr.
On se retrouve dans un instant, si vous le voulez bien. Dis donc, ça bouge pas mal dans le cinéma français aussi en ce moment, là, parce qu'on parle du cinéma américain. Mmh. Et ça bouge aussi dans le cinéma français.
Bah, heureusement, non.
Il se passe plein de choses. Ah bah oui, exactement. On va quand même parler de cette actualité et puis on va voir si effectivement ce mouvement MeToo cinéma, qui à mon avis existait déjà il y a quelques temps, mais enfin bon, on pourra en discuter, existe toujours aussi aux États-Unis. Voilà, est-ce que c'est tout encore un combat des actrices américaines? À tout de suite sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Et toujours en votre compagnie, Stéphane Boutsock. Vous, le cinéma, c'est votre dada. Depuis combien de temps d'ailleurs sur RTL?
Pour le cinéma, ça fait 18 ans cette année, je crois.
Dites donc. C'est super. Vous partez là à Los Angeles pour les Oscars. Vous étiez évidemment au César il y a peu. C'est vrai qu'il y a toute une période en fait. Hein, le début d'année, c'est chaque année.
Il y a les Golden Globes tout début janvier. Il y a nos Césars. Il y en a d'autres. Hein. Il y a les BAFTA à Londres. Il y a les Goya en Espagne qui sont importants aussi. Et puis les Oscars qui referment un peu cette page remise de prix.
Je me demandais, est-ce que les remises de prix aux États-Unis permettent aussi, à l'instar de certaines en France, aux comédiens de s'engager, de donner publiquement un point de vue politique. Par exemple, là, on est en pleine période de préélection américaine. Est-ce que c'est quelque chose qui se joue aussi sur la scène du Dolby Theatre?
Alors, c'est quelque chose qui a été beaucoup pratiqué et qui, d'après les analystes, a aussi fait baisser les audiences. Parce que depuis quelques années, les Oscars sont un peu moins regardés parce que, justement, à un moment, vous savez, Hollywood est très, très, très démocrate et s'adressait à des millions de téléspectateurs dont certains étaient aussi républicains. Et ce côté très à gauche avait en tous les cas froissé une partie du public. Donc ça s'est un peu calmé. Il y a le maître de cérémonie qui sera en effet Jimmy Kimmel, qui est une des stars des late shows, des émissions de fin de soirée aux États-Unis, qui fait le début où il va chambrer toute la salle comme d'habitude, mais ça c'est le grand jeu et c'est plutôt bien fait. Et après, oui, soit ceux qui vont remettre les prix ou soit les lauréats et lauréates généralement en profitent pour faire passer des messages. Et maintenant qu'on connaît les finalistes Biden et Trump, j'imagine que oui, dimanche soir, il y aura quelques petits scuds.
Dernièrement, ça a beaucoup bougé dans le cinéma français, les révélations de Judith Godrèche et d'autres comédiennes qui sont dirigées clairement vers des réalisateurs, d'illustres réalisateurs français. On appelle ça le MeToo cinéma, avec des affaires qui préexistaient aussi, hein, les révélations de Judith Godrèche. Ça fait quand même quelques temps qu'on sent que c'est en train de monter, de bouger. Quel est votre regard sur la situation?
Moi, je trouve ça d'abord extrêmement salvateur, nécessaire, voire même indispensable. Le discours de Judith Godrèche au César, il était quand même extrêmement fort. La parole se libère parce qu'on est en train de désacraliser, en fait. Alors, on rappelle évidemment que tout ceci, il y a la présomption d'innocence, attention, mais on désacralise en tous les cas une génération de comédiens ou de metteurs en scène qui ont été aussi encensés pendant des années. C'était le cinéma d'auteur, donc c'était permissif, donc c'était transgressif, donc c'était une autre époque, donc c'était d'autres mœurs, et on avait l'impression que ça faisait partie du jeu. Or, non. À partir du moment où il y a un nom d'un côté et quelqu'un de l'autre dit « je vais prendre quand même », non, ça peut pas se passer comme ça. Donc, il y a ça chez nous. Aux États-Unis, le rôle du metteur en scène, il est beaucoup moins important sur un film. C'est le producteur qui a la main. Et on n'a pas ça en France. C'est pas le même système. Ce qui veut dire que la déflagration Weinstein, c'est d'abord parce que c'était un producteur tout puissant qui pouvait tout se permettre à une époque et qui payait, qui engageait les réalisateurs, qui lui obéissaient au doigt et à la... C'est pas du tout pareil en France.
Mais le mouvement MeToo, il est né aux États-Unis.
Oui, bien sûr.
Et ensuite, il est arrivé en France. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore d'actualité ou vous avez le sentiment que...
Chez nous, vous voulez dire?
Non, là-bas. Là-bas aux États-Unis, alors... est-ce que c'est passé à autre chose quelques années plus tard, cinq ans plus tard?
Alors, c'est vrai qu'il y a eu un ménage qui a été fait à partir de 2017. Et puisqu'on parle des Oscars, l'Académie a été suffisamment critiquée. Elle s'est rénovée. Plus de diversité, plus de parité. Les questions de genre sont arrivées, les questions de couleur de peau sont arrivées enfin sur la table. Donc on est dans un débat un peu global. On a l'impression, nous vu d'ici, qu'on en parle peut-être moins de ces affaires d'agression sexuelle et de violence faites aux femmes et aux hommes d'ailleurs, parce que ça existe et on commence à le voir aussi en France. Mais on a l'impression que la balle est dans le camp français, là, en ce moment. Mais vous savez, ça se passe aussi en Espagne, ça se passe aussi en Italie, parce que la parole, elle se libère partout. Et c'est pas parce que les faits sont prescrits qu'il faut pas en parler.
Exactement. Et la parole se libère, mais l'écoute se libère aussi. Et enfin, justement, on écoute cette parole qui cherche à se libérer depuis si longtemps. Merci beaucoup, Stéphane Boutsock.
C'est moi.
Bon, alors, le FaceTime.
Promis.
Non, mais attends.
J'ai 9 heures de décalage.
Bah, justement, moi, je veux mon petit FaceTime au matin.
Très
quand
bien.
Moi, je prends mon petit déj, tu m'appelles tout beau.
Moi, il sera 18
heures. Voilà, tout beau et prêt à en découdre à
très
Hollywood. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que, comme vous me manquerez, moi, je lirai l'encyclopédie du crime au cinéma que vous avez coécrit avec Alain Bauer aux éditions Grund. Voilà, c'est mon livre de chevet parce que je ne peux pas avoir Stéphane Boutsock avec moi.
Il y a plein de films oscarisés dedans.
Exactement. Donc, ce sera avec plaisir en tout cas. Merci à vous, mon cher Stéphane.
See you soon.
See you soon. Des statuettes aussi pour l'équipe de Jour J, Céline Bonnet, Quentin Azoula, Bastien Robin et Marc Bissier. Merci à tous et très bonne soirée.